tout le monde. Enfin, spectaculaire commence, émission numéro 149, mercredi 13 décembre 2017. Christophe Rollet au micro, Gérald est de retour, Benjamin aussi, oui, auditeur, Benjamin Vanderlic est déjà venu une fois, deux fois, peut-être davantage. Mais non, il n'est pas venu davantage. De toute façon, vous le savez très bien, auditeur, quand on aime, on ne compte pas. L'émission commence avec un retard incroyable aujourd'hui, 14h08. Nous sommes néanmoins en avance par rapport au créneau de la semaine dernière, oui. À 14h, on ne diffusait pas puisque l'émission était entre 11h et midi. Elle n'est pas encore disponible sur le blog, mais promis, dès que j'obtiens le fichier, je la transmets et je la dépose sur le blog et vous pourrez donc réécouter cette émission. Il était question de Tartuffe qui s'est terminée du côté de l'espace 44. Aujourd'hui, Benjamin vient nous parler de ce livre Mes voisins, édité à La Passe du Vent. C'est un ouvrage absolument non pas saisissant, ce que j'ai mis sur le blog, plutôt poignant, touchant, émouvant. Nous allons en parler comme tous les mercredis jusqu'à 15h. Donc j'en reste là. Premier titre que Gérald a prévu. Ça fait plaisir d'avoir déjà un titre à diffuser. Ce n'est pas moi qui ai anticipé cette playlist, ni l'invité. Quoique si, l'invité a approuvé. Playlist approuvée, écoutée et il est tout à fait d'accord avec. Commençons avec Gawa Diffusion. Gawa tout court, voilà, je confonds absolument tout. Allez, je me tais. Écoutez-nous donc, vous avez tout à fait raison de le faire sur radiocanu.org si c'est sur internet ou bien le 102.9 de la bande FM. Et puis nous continuons ensuite avec Benjamin Vanderlic pour ce livre Mes voisins. Alors que se passe-t-il? Mais je l'ai dit à Gérald, hein, ça fait plaisir d'avoir un titre à diffuser, mais il bloque un peu. On a écouté le début, en fait c'était la fin, voilà. Gérald, qu'est-ce qui se passe avec ce
Alors, bon, ouais, c'est vrai que c'était un challenge de passer ce disque bar restaurant de Gawa, acheté à une fin de concert au whisky qu'est sous les ping-pong il y a bientôt 15 ans, qui est, comme vous l'avez remarqué, de très très bonne qualité, enregistré au studio Big Easy, montée de la butte à Lyon. Voilà, mixage au studio 7, c'est vrai que ça sature pas mal. C'est dommage parce qu'on voulait écouter.
C'est plus que saturé, la qualité.
Reviens-moi.
C'est que ça coupe le
ouais,
truc.
Parole de Salah Gawa, il a un peu déconné toujours ce disque, c'est pas grave, on va en mettre un autre à la place. Musique traditionnelle, hommage aux femmes, mères, épouses, elles qui virent partir leur mari pour trouver de quoi vivre et qui voient à présent leurs enfants de l'autre côté de la Méditerranée. Les larmes des femmes pleurent aujourd'hui la liberté perdue dans un pays soumis à un double joug de la terreur islamiste et de la tyrannie militaire. Voilà, bon, est-ce que ça a changé depuis? On peut se poser la question.
Ce qu'on peut faire, c'est que comme on a du retard, on peut commencer tout de suite. Donc Gérald, je t'en prie, nous recevons
Benjamin Vanderlic pour la troisième fois, jamais 203, donc qui publie Mes voisins, récits et anecdotes de la migration, des récits, des témoignages, très forts, édité à La Passe du Vent, publié très récemment avec un avant-dire de Yvon Lemaine, une postface de Vélibor Kölik et des illustrations de Renaud Morel.
Bonjour à vous.
Ah oui.
Bonjour Benjamin.
Bonjour Benjamin. Vélibor Kölik, j'en ai un ouvrage ici d'ailleurs. Je crois que je vais soumettre le titre à Benjamin, comme ça fera
ça, déjà,
une première question.
On prononce Vélibor Kölik.
Kölik.
Ah oui, Kölik, désolé. Oui.
Et oui, c'est un écrivain que j'apprécie énormément depuis une bonne dizaine d'années. Quand j'étais en train de compiler tous ces témoignages pour en faire des petits récits, sorte de poésie, je trouvais qu'il était, il pouvait être intéressant de donner une plus-value aussi au livre en sollicitant des personnes qui ont un regard d'écrivain sur cette thématique de la migration.
Auditeur, attention, le titre venait de repartir, le titre Gawa. Moi, le titre, Benjamin, que je souhaite vous soumettre, c'est j'ai une très belle, magnifique ouvrage publié chez Gallimard de cet auteur, donc Vélibor Kölik. Oui, c'est vrai qu'il y a des signes sur les C. Ce livre s'appelle Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons. Est-ce que c'est pas plus ou moins, parce que, auditeur, on va peut-être pas tout de suite, hein, Gérard, on refait pas le portrait de Benjamin, quoique vous manquez cette image, hein, on n'est pas filmé là, on n'est pas comme les BFM TV, RTL ou je ne sais quoi, avec des caméras également dans les studios. Si c'était néanmoins le cas, vous auriez pu voir, vous auriez pu apercevoir Benjamin manipuler
un appareil photo. En effet, je reste avant tout photographe, ethnologue et non pas écrivain. Pour autant, par les différents bricolages que je fais entre différentes sciences ou différents arts, la question de l'écrit me passionne quand même, d'une certaine manière. D'où la volonté de donner aussi une trace plus importante aux personnes qui ont laissé ces témoignages, à savoir quoi de plus joli qu'un livre.
Alors, à défaut peut-être, donc Benjamin, de refaire votre portrait, auditeur, je vous renvoie aux émissions 45 et 72, enfin je ne sais plus, il faudrait faire le portrait de ce livre et puis de ces personnes.
Alors un livre, déjà on pourrait mentionner qui aurait pu être un livre CD, puisque la parole est au centre de cet ouvrage, la parole transmise, la parole donnée, la parole prêtée, entre voisins. Je vais lire la quatrième de couverture parce que ça me semble important. Donc pendant un peu plus d'un an, Benjamin van der Leek s'est installé dans les quartiers populaires des agglomérations d'Annemasse, de Lyon et de Saint-Étienne. Il a invité des habitants à aller recueillir des récits et anecdotes de migration auprès d'un de leurs voisins. En proposant avec ce livre une sélection de ses paroles retranscrites, ce sont des sortes de poèmes autobiographiques, des fragments de vie livrés, une succession d'anecdotes des uns et des autres qui parfois se contredisent. C'est intéressant d'ailleurs, toutes ces contradictions. La démarche a été portée par le collectif documentaire lyonnais Service Compris.
Oui, le site effectivement auquel il faut...
Alors, je parlais de livre CD, puisque par contre il y a des pastilles sonores, parce que tout ça a été accompagné d'un travail sonore et d'un travail de restitution, de partage auprès des participants dans différents lieux associatifs, culturels, qui cultivent la mémoire et immigrés, on va dire, en France.
C'est sur le site de
Vélo. Il y aura des pastilles
notamment
sur notre blog, de témoignages.
Ah ben on a déjà mis quelques extraits.
Ils seront écoutables aussi, en plus de l'émission.
Donc c'est bien Service Compris. Oui, Benjamin.
Oui, pour peut-être rappeler un peu l'origine du projet. C'est un projet culturel qui s'inscrit aussi dans toute une série de réflexions sur les questions d'immigration que je mène depuis longtemps. Et je me rendais compte que souvent, justement, ces récits sont collectés par un professionnel qui vient de l'extérieur, qui passe donc quelques heures, quelques jours, quelques minutes même parfois, et après rendre la parole de manière publique, sans savoir si c'est réellement ceci que voulaient les personnes interrogées. J'ai souhaité expérimenter ce couple entre voisins, donc comment un habitant qui fréquente donc son quartier et ses voisins à longueur de temps peut être à même d'aller voir son voisin et de lui poser des questions sur les questions d'immigration et comment justement le voisin est très capable de répondre aussi de manière très précise, très forte, très réfléchie aussi à leurs histoires de migration. Ça s'est testé. Je me demandais si ça pouvait réellement fonctionner, évidemment. Mais pour autant, donc ça a été plus qu'une réussite. Soit je pouvais mettre à disposition un enregistreur et un petit appareil photo, soit autrement, je leur disais de faire l'entretien avec leur téléphone portable. L'idée était de ne pas mettre en avant la qualité sonore ou photographique, mais mettre en avant la qualité du contenu. Et donc le contenu, on le travaillait un petit peu avant. Eux après faisaient les entretiens, parfois ils les faisaient en français. Je les invitais aussi à les faire dans leur langue maternelle qu'ils pouvaient avoir en partage. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des entretiens en araméen, en turc, en oromo, différentes langues dont on entend assez peu les sons copies, sur c'est ça. On les entend assez peu sur les ondes ou dans la rue, enfin sauf quand on s'y intéresse. Et l'idée était de se dire que certaines personnes donc sont considérées comme inintéressantes parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien le français. Et en fait, ils peuvent dire ils ne demandent qu'à être écoutés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre qui avant avait donné lieu à des petites pastilles multimédia, quelques photos avec les témoignages sous-titrés ou non.
est-ce qu'il pourrait être plus important ce livre? Est-ce que ça aurait pu être ce qu'on appelle un beau livre avec des photographies, ou non, vous n'avez pas forcément tiré de pour ces pastilles?
Au final, donc pour les...
Parce que, attention, le coût est formidable, hein, auditeur. J'ai acheté mon ouvrage, hein, Gérald. Je ne dirais pas que certains en ont obtenu des dédicacés. Moi, je l'ai acheté pour la modique somme, on peut tout à fait l'indiquer, 8 euros. Enfin, c'est une somme qui est complètement abordable. Et pour le coup, ça remue. Enfin,
125 pages, il faut mentionner qu'il se lit assez vite. Et
oui, parce que c'est ce que je disais au départ, c'était un projet culturel, donc un projet culturel qui était complètement inclus dans les politiques culturelles de la région, de la DRAC, donc la direction, le ministère de la Culture, mais également par les différentes communes sur lesquelles donc j'ai effectué ces travaux. Donc j'ai effectué des résidences pendant une semaine. Je me fixais sur un territoire, on préparait le territoire. Et après, on essayait d'identifier des habitants qui pouvaient donc soit connaître des habitants et leur demander d'aller voir leurs voisins, soit les habitants qui directement allaient voir leurs voisins.
Donc, est-ce qu'il aurait pu être plus important un beau livre à quoi, une trentaine d'euros avec un CD en plus, tu disais Gérald, avec beaucoup de photographies?
Non, c'est bien vite inabordable.
C'était pas l'idée.
Non, l'idée était vraiment d'avoir un livre où, de toute façon, je veux pas dire que le quart des livres était destiné à être donné, mais on doit pas être loin de ceci, c'est-à-dire toutes les personnes, donc intervieweurs, interviewés, pouvaient donc déjà la moindre des choses, c'était de leur redonner le témoignage en papier, qu'ils puissent après l'offrir à qui ils veulent, le vendre s'ils ont envie, enfin, d'une certaine manière, j'essayais d'avoir une démarche assez réglo avec eux, ils m'ont donné un petit peu de temps, on leur a donné donc un livre.
Pour revenir à ce dispositif de sciences humaines, ce sont les sciences sociales, hein, que vous exercez. Donc voilà, on sait bien, enfin, on a une idée que les sciences humaines sont une science molle et que la présence même d'un intervieweur, on a parlé de l'histoire de Griot, qui a été mal informé par au nord du Mali, au pays de Gon, qui l'aurait un peu mené en bateau, etc. La présence de toute façon, comme d'une caméra ou que d'un sociologue, transforme et opère sur la réalité. Est-ce que le parti pris n'a pas été donc de partir de ce constat en disant de toute façon la présence d'un intervieweur, d'un ethnologue qui est là pour étudier, de toute façon va fausser la réalité, donc autant faire participer et créer cette réalité à partir des gens pour faire un travail collectif de restitution qui soit plus objectif?
Complètement, il y a ça, et après aussi sur cette question du choix des questions, on peut se dire ils ont répondu à la facilité parce qu'ils se mettaient d'accord sur les thématiques qui les intéressaient. Mais c'était justement se dire peut-être que si on les interrogeait sur ce dont ils ont envie de parler, non seulement ils sont à l'aise, mais ils disent des choses sur lesquelles ils sont plus acteurs, sur lesquelles ils ont vraiment des choses à dire. Et donc pour ça, il y avait une série de 5 thématiques différentes. Ils choisissaient donc les thématiques qui les intéressaient le plus, aussi bien l'habitant pour dire « Ah, moi j'aimerais bien que tu me racontes des choses sur pourquoi t'es venu. » Et l'autre pouvait dire « Oh non, ça c'est mon jardin secret d'une certaine manière. Par contre, une chose qui m'intéresse, c'est mon parcours d'intégration sur le territoire, comment j'ai réussi ou je n'ai pas réussi à gravir les échelons dans la cité. Donc c'était ce travail donc au préalable, avant l'entretien, ils se mettaient d'accord déjà sur ce dont ils avaient envie de parler, et une fois l'entretien réalisé, ils revenaient me voir quand j'étais pas avec eux à faire l'assistant technique, et donc on débriefait ensemble. Et il nous disait les choses qu'ils avaient envie de retenir. Et il est assez intéressant de voir qu'on est un petit peu, souvent, c'est à l'opposé, c'est-à-dire la chose que voulait garder, par exemple, notamment l'intervieweur, c'était la chose qui lui paraissait le plus extraordinaire, complètement à l'opposé de ce que lui aurait vécu. J'ai un surhomme en face de moi, mais comment a-t-il pu faire ça? Ou autrement, ça pouvait être aussi quelque chose qui est très proche de son vécu à lui, d'immigré ou de non-immigré, mais qui a un parcours différent. Et au final, l'histoire de son voisin lui parle, soit parce que donc c'est quelque chose d'incroyable qu'il n'entendrait, que à la télévision, alors qu'il suffit d'aller juste à la porte à côté de chez lui et on a cette cette réalité, ou soit de, donc cette personne donc avec qui souvent il prend pas le temps de discuter, il se rend compte que en fait ils ont une appréhension de la vie qui peut être relativement proche. Mais pour ça, le plus simple tout à l'heure, ce sera peut-être d'écouter des extraits ou un extrait au moins d'entretien, parce que là on reste un petit peu dans le flou, mais donc au niveau des
le cœur du sujet.
Juste pour les personnes
rencontrées. Il faut quand même encore.
Non, mais ils ont
payé. Oui, pour les personnes rencontrées, donc il y a 60 entretiens qui sont compilés dans le livre, plus une dizaine de dessins. Les dessins, en fait, c'était des photos, c'est issu des photographies qui ont été réalisées.
Par
les habitants. Certaines également auraient pu être réalisées par moi. Il y en a 2-3 qui sont faites par moi, mais aussi c'était l'idée de dire vous pouvez aussi témoigner. Et après, par contre, vu que les photos étaient extrêmement disparates, que le rendu à l'impression risquait d'être médiocre, il semblait plus judicieux de partir sur du crayonné papier pour avoir un rendu esthétique homogène.
Et vivant, plus vivant même. Ça marche bien.
Je suis sur la quelle page est-ce ? Je ne sais pas si elle est numérotée. Les illustrations ont été réalisées par Renaud Morel à partir de photographies prises par des voisins. Et oui, bon, votre nom est indiqué par Benjamin Vanderlic. Les âges signalés et ainsi de suite. Fin du mois, c'est la sorte d'avertissement au lecteur sur ce qui va suivre. Puisque moi, je pense que c'est peut-être encore une bonne chose, Gérald, de rester non pas tant flou, mais de parler de cet ouvrage, de ce livre, de manière encore, voilà, d'en parler de manière un peu générale. Donc, il y a au début une préface faite par, on l'a indiqué, donc Velibor Čulić.
L'avant-dire de Yvon Lomen, un poète écrivain habitant à Lannion.
C'est vrai, le texte de... Bah, où est-il finalement ce texte de Velibor Čulić ? C'est
là, oui, c'est là. D'ailleurs, il y a cette très belle phrase qui cite justement, il s'agit des voisins, donc ce très beau proverbe, je trouve, bosnien, qui dit « Il vaut mieux un bon voisin qu'un mauvais frère. » À méditer. C'est un peu le contraire de la fameuse diatribe frontiste de Jean-Marie sur « Je préfère mon frère à mon voisin et mon voisin à un inconnu, etc. »
Mon cousin,
contre-pied de ça.
Je préfère ma sœur à ma cousine à ma voisine à ma bouchère. Et... Enfin, ça m'ennuie beaucoup de réciter cette litanie, cette profession frontiste.
À la forme, ces 60 questions donnaient lieu donc à 4 parties différentes. Qui sont donc choisir de partir, choisir la France, arriver, être accueilli, s'installer, être accueilli, être accepté, s'intégrer, avancer, transmettre, et enfin être déraciné, puisque c'est comme ça, il faut tenir. C'est la matière des questions qui ont donné lieu à ces 4 parties différentes.
Et pour les entretiens, ils ont été réalisés auprès de personnes extrêmement diverses. La personne qui était en France depuis plus longtemps, donc, était arrivée, me semble-t-il, à l'âge de 13 ans, en venant d'Italie, et donc, il allait fêter son 60e anniversaire de présence en France. Et la personne la plus récente était un Guinéen de 17 ans, qui venait d'arriver 15 jours auparavant. Et donc entre deux, donc des hommes, des femmes au parcours extrêmement différent, au regard aiguisé ou des.
Il y a un enfant de 7 ans aussi, un petit Comorien, non, de 7 ans, je crois.
Oui, quelque part. Oui.
Ouais, c'est le texte le plus bref, je crois.
Il y a même une école de 1000 pages qui avait participé et avec des témoignages qui nous donne à réfléchir justement sur ce que c'est qu'arriver en France quand on est tout jeune, et on a quand même des choses à dire.
On va donc effectivement peut-être à 14h26 rentrer davantage dans ce livre. Est-ce qu'on fait une pause musicale, ou est-ce que déjà je diffuse, je crois avoir préparé un peu les choses. Est-ce que j'ai toutes les pastilles?
Je
peux vérifier, oui. Il y en a beaucoup, hein. Il y a en plus plusieurs prénoms. Il y a Aminata qui est en plusieurs fois. Moi ici, je vois, j'ai Exil Aminata, ici et là-bas, Gustavo. Ah, mais Gustavo, c'est celui qui termine, c'est ça?
Gustavo,
c'est
ce serait peut-être plus pour la fin.
Oui. Parce que oui, c'est
Aminata,
un
peu la commence, Aminata.
C'était un voisin croix-roussien.
Il y a plusieurs Aminata, Gérald.
Oui. Alors la première.
Aminata, c'est la même, c'est la seule, c'est une exception. Elle apparaît 2 fois.
Ah, d'accord, c'est pas cool.
Son propos était. Elle a répondu à plusieurs sujets. Et elle le disait avec un ton juste drôle, et donc j'ai été obligé de la mettre 2 fois.
Allez, et ben on écoute Aminata.
J'ai Aziz aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Je sais pas. Il y a donc Alassane, je vois. Il n'y en a pas tant que ça non plus.
On peut se mettre Aziz.
Mamadou. Hein. Aziz. Où est-ce que je l'ai mis, Aziz? Je l'ai perdu. Aminata Admas, voilà. Étude épicerie, c'est ça?
Ah oui, le thésard.
Ah exact. Ah oui, c'était assez. Assez scotchant.
Un épicier de Saint-Étienne.
Né au Maroc, 58 ans, arrivé en France en 1984. Entretien réalisé en français par Mireille.
Ah oui, faudra en parler. Il y a une certaine Pranvera qui réalise un entretien et il y a une interviewée, enfin donc Pranvera intervieweuse, mais il y a aussi une interviewée qui s'appelle Pranvera. Exactement, je suppose qu'il y a eu des échanges entre les voisins. Auditeur, 14h28, donc écoutons Aziz, c'est un extrait, est-il disponible en pastille Vevo sur le site, enfin du moins...
Sur le site Mes Voisins,
sur la vidéo Mes Voisins, oui.
il est en écoute.
Eh bien, j'espère que ça a bien fonctionné, puisque tout à l'heure, il va falloir que je te rende ton gawa.
Mes-voisins.fr.
Bon, très bien. Ah oui, il faudra que nous donnions toutes ces précisions. Écoutons Aziz, étude épicerie, et puis c'est tout, extrait de ce livre, Mes Voisins, dont nous parlons encore jusqu'à 15h.
Je m'appelle Aziz. À la base, je suis historien, en fait. J'ai rédigé deux thèses sur le Maroc, ici à Saint-Étienne. Voilà. Et bah, actuellement, je suis commerçant. Et je suis là depuis 1984. Non, à ma connaissance, j'ai été bien accueilli, que ce soit pour ma famille, que ce soit par mon directeur de recherche aussi. Parce que, en fait, moi, au départ, mes études, j'ai tout fait en arabe. Et quand je suis arrivé ici, là et tout, mon directeur de recherche, M. Merleuil, je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort, et il m'a vraiment, vraiment bien accueilli. J'étais bien accueilli, en fait. Hein. Au début, c'est mon frère qui m'aidait, en fait. Mais au fur et à mesure que je commence à m'enraciner dans la ville, je commençais à travailler pour financer mes études, en fait. Hein. Surtout l'été. L'été, j'ai toujours travaillé dans une usine à la Chaudière. Voilà, et à côté de ça, je faisais des vacations. Je faisais des vacations à l'université. En été, des fois et tout, pendant les vendanges, j'allais faire les vendanges à Béziers, à Porquerolles, ici vers Lyon aussi. Il y avait deux problèmes. Déjà, c'était la crise ici et la crise au Maroc pour tout ce qui est études supérieures. Il y avait un problème de recrutement. Hein. Ici, j'avais un problème parce qu'en fait, j'avais mis le directeur de recherche, M. Merley. Et moi, quand j'ai fini, il est parti en retraite. Ça veut dire que j'ai plus de points d'appui. Au Maroc, c'était la crise. Et puis, il y a le problème aussi des interventions et tout. Je suis né d'une famille pauvre. Alors, à l'époque et tout, au Maroc, c'est les fils des notables, les fils de tel et qui ont les grands postes au niveau universitaire. Et moi, j'avais pas cet appui. Premièrement, et puis deuxièmement, j'avais déjà fondé une famille ici. Et du coup, j'avais un vrai problème. Mais je suis venu tout juste là pour faire mes études et repartir. Les circonstances ont fait que je me suis trouvé obligé de rester là hein, et de me débrouiller autrement hein, de la thèse à l'épicerie.
Page 115, tu m'as dit que Gérald, elle est terrible hein, cette conclusion.
De la thèse à l'épicerie.
Deux thèses en histoire, aujourd'hui épicier à Saint-Étienne au quartier Tarentaise.
Mes voisins, publié je crois, moi j'ai en tête la date du 15 octobre, un truc comme ça, 13 ou 15
début,
octobre.
Début octobre.
Alors donc c'est extrêmement récent.
Avec la Passe du Vent, les éditions La Passe du Vent, et on a célébré la sortie dans le cadre du festival de l'espace Pandora, Parole Ambulante.
Récits et anecdotes de la migration, c'est une sorte de sous-titre. Un ouvrage, je tiens encore à le redire, un bouquin, un livre qui coûte 8 euros et c'est quand même vraiment accessible. Et ces 8 euros, ça. Je voulais commencer à dire tout à l'heure que ça fait voyager, mais c'est pas ça le truc, c'est pas tant que ça fait voyager, parce que pour le coup, si, quand même, hein, les dates de naissance, enfin pas tant les dates, les lieux de naissance, né en Algérie, né au Cap-Vert, né en Roumanie, né en Italie, né en Tunisie, né en Libye. Né en Algérie nouveau, né en Turquie, né encore en Algérie, né à La Réunion, né en Irak, ouais, c'est ça, né en Macédoine, né en Moldavie, né au Sénégal. Il y avait également Kosovo, donc né au Chili. Donc voilà, on voyage un peu, mais ça fait plutôt voyager, enfin du moins ça remue quoi. Enfin voilà, j'ai mis le terme saisissant, c'est plutôt poignant, touchant, émouvant.
J'avais pensé
c'est
paroles de poilu. Il y a eu des paroles de l'ombre sur 39-45, il y a eu paroles de poilu avec des facsimilés de lettres envoyées du front par des agriculteurs, des ouvriers, avec des fautes d'orthographe, etc., des maladresses de français des fois. Et paroles de poilu est un livre déchirant. Et là j'ai retrouvé cette force en fait de paroles vraies.
Oui, c'est aussi à partir de, par exemple, du témoignage de
Benjamin Bradavich.
À partir du témoignage de Aziz, là, qu'on a pu entendre, pour son témoignage. Donc, à l'oral, là, il est beaucoup plus long. Donc, il y a eu un travail de resserrement, sélection, pour garder des témoignages, souvent, qui durent une page, deux pages, trois pages. Enfin, oui, le maximum, c'est peut-être quatre pages pour des personnes avec qui c'était impossible de compresser plus que ça. Mais, on a du témoignage extrêmement court, mais où la forme aussi orale est relativement gardée. Parce que il y avait aussi ce souhait de faire entendre le français tel qu'il est parlé dans le monde. C'est-à-dire, il faut aussi se rendre à l'évidence que le français est une langue majoritairement parlée à l'extérieur de la France. Et si cette langue donc se développe et vit, c'est aussi grâce à toutes ces personnes-ci. Et donc, certes, au départ, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui me disaient « Ah, c'est très intéressant, mais j'ai eu du mal à m'adapter au français. Des fois, on met un peu plus de temps à lire le français. » C'est tout simplement qu'on n'est pas sur un français académique, mais on est sur un français qui vit, qui est largement partagé, qui est approprié, tout simplement.
C'est toute la richesse de la francophonie. Et d'ailleurs, c'est Aminata, le premier témoignage par page 21, né en Côte d'Ivoire, 59 ans, arrivé en France en 78, qui le dit très bien. Moi, dans mon pays, il y a 75 dialectes, elle dit, langue maternelle différente. Donc, si je vois un compatriote de Côte d'Ivoire, je vais parler le français avec. Parce que si je parle ma langue maternelle, s'il n'est pas de mon côté, il ne peut pas comprendre. Au Sénégal aussi, c'est pareil. C'est ça qui est bien. Là, on est en anglophone. C'est la même chose. Ceux qui sont d'Espagne, ceux qui sont du Portugal, c'est pareil.
Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, oui, en effet, on peut avoir ce témoignage de Aminata arrivé dans les années 70 en France. Mais on peut avoir aussi les témoignages, je suis en train de les,
ouais,
de les chercher, mais pour
le deuxième, je crois, il me semble, dès la page suivante, Mamadou.
C'est ça,
Mamadou. On est en Guinée-Conakry, 16 ans, arrivé en France.
Oui,
depuis 15 jours.
C'est ça. Et lui, Mamadou, pourquoi, et donc, il est, pourquoi il a choisi la France? L'une des premières choses qu'il dit, c'est, j'ai étudié les cours de français à l'école. J'ai beaucoup étudié l'histoire entre la France et mon pays. Beaucoup de choses qui se sont passées. Aussi, c'est la France qui a colonisé mon pays. Donc, il y a ce lien quand même qui existe. Et après, le fait de choisir, une fois avoir traversé donc la Méditerranée, de s'arrêter en France, c'est parce que on a quand même des repères culturels extrêmement partagés.
Même donc, si on est moins bien accueilli, tout au moins en quantité, que dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou d'autres régions.
Complètement.
J'ai aussi, enfin, en termes d'écriture, c'est un vrai texte à lire. Hein. On a parlé tout à l'heure des dessins qui sont tirés des photos, mais là, par exemple, je suis à la page 71, camarade, et je vois donc le texte de Mine. Alors, c'est assez étrange, né en Turquie, 36 ans, arrivé en France en 2002, tout en bas de la page, c'est très souvent, là, pour le coup, ça fait tout de même une vraie matière universitaire. Enfin, il y a un travail sérieux, enfin du moins c'est pas des propos comme ça retranscrits. Donc tout en bas est indiqué entretien réalisé en turc par son fils, mais alors attention, traduction en français par Mine. Ça veut dire que Mine, qui est interviewé, a dû, je suppose, Benjamin,
oui. En fait, oui, j'ai pu m'arracher les quelques cheveux que j'avais sur la tête pour tout ce travail de retranscription des entretiens, parce que tout ce travail donc de traduction, on le faisait ensemble. Donc on se disait bon, de quoi vous avez parlé?
Mine est francophone, donc là pour le
elle
coup.
Est francophone.
Oui, mais
elle est francophone.
Elle a préféré parler en turc à son fils.
Mais avec son fils à la maison, elle parle en turc. Et donc ils se sont dit allons-y, faisons la chose aussi en turc, parce qu'on a envie de faire partager cette langue aussi, de la faire entendre. C'est le fait aussi de faire tomber certaines barrières du racisme, c'est donner à entendre sur la place publique des choses que l'on n'entend pas. Souvent on peut parler On peut constater une certaine gêne quand deux personnes, par exemple, avec des barbes, parlent en arabe dans le métro. Les personnes qui sont autour se demandent toujours ce qui va se passer. Eh bien,
on ne devrait pas rire, c'est pas la situation, mais pour autant,
on constate qu'il y a des choses comme ça qui se passent, ça se passe aussi parce que on ne reconnaît pas cette langue comme une langue qui est parfaitement française aussi. Parce que, hélas, oui, ou c'est comme ça. La France est un pays avec beaucoup de langues. Donc, les langues de France, ce ne sont pas uniquement les patois régionaux qui existent ici depuis longtemps. C'est aussi une diversité de langues. Il existe de l'arabe de France, donc complètement différent de l'arabe d'Algérie, de l'arabe du Maroc, de l'arabe de Tunisie, qui eux également donc peuvent être un peu présents en France. Mais donc l'arabe de France est celui qui va continuer à vivre en se mélangeant donc avec du français, avec entre différents pays du Maghreb, et au-delà de cette langue, on va avoir aussi on va avoir le yiddish, on va avoir l'arménien occidental, qui eux aussi donc vont faire partie des langues de France, parce que on considère que oui, la France s'enrichit de toutes ses composantes.
Alors, faisons le français par le monde, par la francophonie.
Et quand on aura moins peur d'entendre des langues étrangères, les choses pourront aussi mieux aller.
Et la langue dans ce livre apparaît à la fois comme un pont et comme un barrage. Salma, née en Libye, 50 ans, arrivée en France en 2014, page 53. Celui qui n'a pas la langue, c'est très difficile pour lui de vivre avec les gens du pays. Ça paraît aussi évident. Et moi, je n'ai pas aimé cette situation. J'aurais aimé être une parmi les Français, à pouvoir travailler, être active et aussi donner la possibilité d'apprendre pour mes enfants. Ou aussi, ils ont envie de donner quelque chose ici à la France, envie de donner quelque chose, même des choses simples. Et voilà.
Complètement.
C'est tout le paradoxe de ces langues et de ces gens qui parfois souffrent, on le sent dans ce qu'ils disent, qui ont souffert et qui ont souffert pendant des décennies d'une solitude terrible parce qu'ils étaient confinés dans leur non-connaissance de la langue et dans l'isolement. On sent beaucoup de solitude parfois dans certains témoignages.
Oui, la solitude est quelque chose d'extrêmement fort, peut-être un peu plus chez les femmes, encore plus.
Oui, voilà, les femmes plutôt isolées à la maison, restent avec leurs enfants.
Parce que de fait, il y a les enfants, pour beaucoup, il pouvait y avoir les maris qui partaient travailler et les femmes qui se retrouvaient là et qui, donc, à 50 ans, une fois avoir élevé les enfants, que les enfants sont partis, elles se disent, mais je ne parle pas français, j'ai du temps à rattraper, donc on les rencontre justement dans ces ateliers d'alphabétisation. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que donc on avait Pranvera donc en intervieweuse et en interviewée. C'est parce que on mettait en pratique aussi cette question de l'entretien auprès d'un groupe de femmes donc qui se réunissaient une fois par semaine, et donc elles ont joué le jeu, donc à se poser des questions, etc., avec des choses aussi extrêmement dures, des femmes aussi qui souvent n'ont pas l'occasion de parler de ça, de leur histoire, et une par exemple qui ne figure pas dans le livre, c'était une de ses voisines qui l'interviewait, et en fait elle a terminé en pleurs parce que le fait qu'on s'intéresse à elle et qu'on lui dise mais qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu viens, ça l'a bouleversée, et donc elle se rendait compte de sa solitude, mais en même temps elle se rendait compte que il pouvait y avoir aussi autour d'elle des femmes qui sont attentives et qui lui disent non mais si t'as les papiers, etc., que là t'es toute seule, que tu sais pas très bien parler en français, enfin si tu veux je peux te pistonner et je peux te trouver des ménages, enfin chacun son piston, pour sortir, enfin on peut réussir à t'aider, soit tu viens avec nous donc à des moments où on parle, soit donc pour trouver un peu de boulot, etc., on peut essayer de te mettre dans la boucle. Donc s'il y a aussi ce manque de parole qui existe, ce manque d'intérêt un petit peu des uns envers les autres, qui tout à coup était réinstallé.
Pranvera, donc je l'ai aux pages 48. Page 48, elle est intervieweuse, et page 54, elle est interviewée. Deux paragraphes, là, quand elle interviewe cette Pranvera, elle interviewe Rija, qui est née au Kosovo et qui, à 29 ans, est arrivée en France en 2011, c'est à la page 48. Ici, pour les langues et pour parler, ce n'est pas difficile, j'ai appris. Avant, oui, c'était difficile, mais je faisais des cours de français. Ici, c'est difficile, juste parce que je n'ai pas de papier. Peut-être qu'on pourrait redévelopper ça un peu plus précisément. Et Prendre Vera, quand elle est interviewée, elle dit « Je suis très contente ». Elle termine son passage à la page 54. « Les enfants ont beaucoup de chance pour le travail et tout et tout. Le Kosovo, les enfants, ils restent à la maison. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Ici, c'est beaucoup mieux. » Alors, cette situation de la France, je ne sais pas, là, il me semble, Benjamin, je vois qu'il ne reste que, quoi, à peine une vingtaine de minutes, et pourtant, il y a un énorme
chantier,
il y a beaucoup de propos qui sont, je ne sais pas comment les qualifier, difficiles, délicats, enfin, sensibles, ou, parce qu'à la fois, certains sont...
contradictoires.
Mais voilà, certaines personnes peuvent sembler très accueillantes, et puis, brosser un portrait de la France dans les années 70, la France, on accueille tout le monde, c'était facile, c'était bien.
Et il y avait aussi la plus grande solitude, hein, qui était de travailleurs immigrés avant les regroupements familiaux, l'ouvrage de Tarben Jaloun, j'y pensais tout à l'heure, on passe d'une solitude à une autre avec des familles isolées qui viennent mais qui restent quand même chez elles.
Et maintenant, disent-ils, maintenant il y a trop de monde et on peut pas...
Voilà, venant de la bouche de certains immigrants,
on en trouve beaucoup qui n'ont qu'une seule envie, c'est de refermer la porte après eux.
C'est ça.
Parce que ça les renvoie aussi à leur réalité.
Il y a trop de Syriens à Vorovlin, il y en a une qui insiste vraiment, il y a un témoignage qui est assez terrible parce qu'elle dit on n'en veut plus, on ne peut plus les accueillir.
Et pour autant,
partout, et je suis raciste et c'est malheureux. Et voilà.
Et pour autant, elle dit, j'ai tendance à devenir raciste. Elle le disait même. Et quand Nassira, qui avait fait l'entretien avec elle, lui dit, là, tu dis quand même des choses un peu dures. Tu les penses vraiment. Enfin, ça, je tombe des nues déjà. Mm-hmm. Je ne te connaissais pas comme ça. Mm-hmm. J'ai quand même pour autant beaucoup d'estime. Et pour autant, est-ce que t'as envie qu'on garde ces paroles là? Elle disait j'ai envie parce que c'est un côté peut-être un peu noir de moi, j'en suis peut-être pas fier, mais c'est des choses aussi qu'on ressent. On n'arrive pas à les intellectualiser, mais on les pose comme ça. Et ce qui peut être un peu salvateur avec ce livre, c'était justement essayer de poser
tout y est, beaucoup de choses y sont.
On prend pas parti d'une scène quand même, évidemment. Mais on montre
la réalité est complexe.
Ne peut pas se condenser à deux trois paroles qui iraient toutes dans le même sens sur la question du voile. On voit des choses extrêmement différentes sur la question
de la religion et la culture.
C'est ça, sur la question religion culture. On a Tar et Oumar, tous les deux qui habitent à Vaux-en-Velin, et ils vont avoir un rapport à la religion musulmane qui est complètement opposé.
Ouais.
Et donc, il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Ils font vivre leur religion à leur manière, et donc essayons aussi de prendre en considération qu'il y a une diversité de positions.
Il y a un autre voisin ou une autre voisine qui dit que les gens qui fuient la guerre, elle comprend, il faut fuir la guerre, mais alors ceux qui viennent pour essayer de mieux gagner leur vie pour les migrants économiques, quoi, qui essaient de trouver ici, ils disent c'est pas bien, il faut qu'ils restent chez eux, c'est plus la peine, il y a trop de chômage, trop de misère ici, les gens là-bas au pays, au bled, croient qu'on ramasse l'argent avec des balais aussi.
C'est vrai,
il y en a qui ont souffert. Hein. Donc ils disent, ils souhaitent pas le même sort.
Mm-hmm. Ouais, il y a un peu de tout, la réalité des ni noirs.
Il y a un autre témoignage très intéressant d'un père de famille africain, je ne sais plus lequel.
Blanc foncé ou bien noir.
Il a réussi ici, mais qu'en fait il est pas plus heureux que s'il était resté au pays parce qu'il gagne plus d'argent. Ça lui a permis de mettre de côté, de nourrir sa famille à distance, comme beaucoup font. Mm-hmm. Toutes les diasporas du monde font ça. Certains d'ailleurs, pays, il y a plus de ressortissants à l'étranger que dans leur pays même. Mais il dit quand même qu'il serait pas plus malheureux, en fait. Il est pas plus heureux. C'est juste qu'il arrive à aider sa famille à gagner plus d'argent ici qu'ailleurs. Ou dans son pays, parce qu'il y a trop de corruption, trop de relations de pouvoir, où on n'arrive pas, si on n'a pas de connaissances, à avoir un travail.
Grâce à ça, il permet de faire vivre sa famille. Et Oumar,
c'est quelqu'un d'extraordinaire.
Et justement, c'était, ça demandait à être signalé aussi pour les voisins. Donc, au moment de la sortie, on a fait des lectures publiques des témoignages par les habitants eux-mêmes. Entre voisins, donc avec l'aide de Patrice Vandamme de la compagnie Les Arpenteurs.
À plusieurs endroits, c'est ça, ou c'était
à plusieurs endroits.
D'accord.
Déjà, au moment où il y avait les résidences à Vaux-en-Velin, à la Duchère, on avait fait ces lectures, et au moment de la sortie du livre, on en a refait, notamment au Théâtre des Asphodèles, et à Lyon 3e.
Oui, à Lyon 3e.
Et également au CHRS Point Nuit, qui est sur le plateau de la Croix-Rousse, on a fait la sortie du livre. Et on avait comme ça donc des femmes donc en insertion, et aussi donc les intervieweurs de Lyon 1er, interviewés de Lyon 1er, et intervieweur interviewé de la Duchère de Vaux-en-Velin qui parlait comme ça devant une centaine de personnes avec une humilité et une émotion qui s'est répandue dans le public.
Tu étais, Gérald, sur la page 83 de Oumar. Moi, je pense qu'en tant que personne, j'aurais vécu beaucoup mieux au Sénégal. En tant qu'enseignant ou bien assistant dans le supérieur qu'ici. Quand on est ici, on gagne beaucoup plus. Et puis, on peut se priver pour donner ça à ceux qui sont restés au pays. Mais on ne mène pas une vie meilleure. Bam, clac, point final, entretien réalisé par Saïd en français. Il y a des choses très très rudes. Ce que je propose peut-être, ouais. c'est de lancer, là toujours fin d'émission, peut-être de vous lancer, on l'a donc évoqué en début d'émission, Velibor Čulić, il y a des propos durs qu'il tient dans sa postface. Je sais pas, peut-être la lecture de ce paragraphe est peut-être un peu longue, mais bon, pourquoi pas. Même murmurer un mot peut se transformer en cri, des questions sans réponse aussi, consciemment ou inconsciemment, le récit nous interroge. Quel est notre rapport avec l'autre, mais avec le vrai autre qui est différent? Pourquoi nous avons la peur et la haine? C'est la vie, probablement, l'humanité oubliée, la fraternité choisie, notre monde qui prêche le nomadisme et qui en même temps déteste les nomades. Oui. Ça, c'est à l'intérieur de cette postface et conclusion de la postface, puis après on va peut-être mettre une autre pastille ou alors je ne sais pas, Gérald, une pause musicale. Dernier mot, trois lignes pour terminer cette postface, Velibor Čulić. L'extrémisme est une bête qui se nourrit de la peur et du vide. Quoi faire? Soyons alors créatifs et soyons courageux et écoutons nos voisins. Donc c'est en postface, il aurait presque fallu le mettre en préface, c'est très bien, écoutons nos voisins, mais bon, enfin voilà, ces idées d'extrémisme et tout ça. Qui est-ce qu'on écoute pour partir un peu plus, enfin partir, pour continuer à parler de cet excellent, enfin c'est toujours ce terme d'excellent, il est peut-être pas...
On a le temps d'en lancer deux, on peut mettre Aminata.
C'est très Aminata. Bon ouvrage. Alors, Aminata, est-ce que je vais la retrouver? Accueil, j'ai accueil et exil.
Accueil, allez.
Alors, accueil d'Aminata. Moi je tenais à le dire aussi, auditeur, on peut trouver ce livre à Lyon. À la librairie Terre des Livres, rue de Marseille, en 86 je crois, donc il y a une station de tram qui est vraiment qui est à côté, c'est très bien. Il paraît qu'on peut également le trouver facilement à Brest, un dialogue, mais je crois que Brest
c'est un peu plus loin,
peut-être que Terre des Livres c'est meilleur.
Ça peut également se trouver à Vénissieux, directement à l'espace Pandora.
D'accord, il est en commande à la librairie, à la bibliothèque, dans le service des bibliothèques de Lyon, mais il n'est pas encore arrivé, donc bref, la meilleure solution auditeur pour l'obtenir, c'est de le feuilleter. On peut le feuilleter grâce à issu.com, je crois. Il y a une
vingtaine de pages quand même. Il y a des extraits, oui. 40, je crois même.
Ça, c'est très bien. Mais un extrait ne vaut pas la personne elle-même. Écoutons Aminata qui évoque l'accueil. Annemasse, on dirait.
Annemasse. Bon, exactement.
Et puis nous continuons. On va bientôt arriver en fin d'émission.
Aminata, elle vient de la Côte d'Ivoire. Et puis là, je me suis mariée. Mon mari est ici depuis 67, dans les années 67. Qu'il est arrivé là très jeune. Donc moi, je suis arrivé dans les années 78, direct à Annemasse. Toujours à Annemasse, travailler tout souvent, tout le temps dans les écoles, dans les collèges, et puis je fais le ménage pour donner à manger aux enfants à la cantine. Je ne me suis pas adapté tout de suite, mais après, avec le temps, ça va. Là, dans le quartier, tout ici, si vous demandez après à Aminata, même un chat, il connaît. Hein. Moi, je cause avec tout le monde. Parce que les Français, c'est pas... Les Français sont tellement... Je m'excuse, je me coincais déjà. Et puis, surtout la Haute-Savoie, typiquement, hein, c'est des gens qui sont très, très, très froids. Pour les réveiller, il faut faire fort. Hein. Mais quand vous quittez Annemasse, vous allez vers un peu plus là-haut, les gens, ils sont sympathiques à la montagne. Ici, les gens, quand je me rappelle encore en 78, bonjour, pardon, bonjour, mais je ne vous connais pas, madame, pourquoi vous me dites bonjour? Ben, sûrement, on n'a pas besoin de connaître pour dire bonjour. Nous, on dit bonjour à tout le monde, même les mouches qui volent. Ouais. Nous, on leur dit bonjour. Ouais, mais c'est ça, c'était la galère quand même. Il n'y a pas un Africain ou une Africaine, surtout une Africaine, qui va arriver en Europe, elle va dire, ah, j'étais bien, non. Moi, je dis, je ne m'adaptais pas. Hein. Je pleurais quand lui, il est au boulot, moi, je pleurais, hein, devant la fenêtre, comme ça. Mais à la longue, il y a les enfants, après, moi, j'ai les petits-enfants. On s'est dit, ben, puisque c'est comme ça, ben voilà, il faut tenir, quoi. C'est pas facile, hein. Mais là, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Même qu'on est ici pendant des décennies, on garde quand même le côté africain qu'on nous a inclus, nos parents. De dire que oui, parce que je suis en France, je veux copier. Non, il faut copier, c'est normal. Mais il ne faut pas laisser aussi sa culture de côté, parce que c'est important. C'est-à-dire, quand je dis ça, point de vue, recevoir les gens, accueillir, on fait un petit plat. Vous voyez, il y a les balayeurs, là, noirs, qui sont venus peut-être du Portugal, la plupart. Comme il n'y a pas de travail, vu que c'est l'Europe, ben ils sont là. Mais des fois, même elle, même moi, on fait à manger, on les connaît comme ça. On s'en fiche de quel pays ils viennent. Mais on fait, il y en a, quand on fait pour un, il y en a pour deux. On les rappelle, on les donne, et puis voilà quoi.
Ça, c'est le contraire de l'avare. La pièce de Molière, Harpagon, quand il y en a pour 8, il y en a pour 10. Là, c'est plutôt le contraire, c'est ça. C'est quand, oui, quoi que si, c'est peut-être un peu l'idée. Quand il y en a pour 4 ou 5, il peut y en avoir pour toute une
journée. Ouais.
C'était Aminata qui nous parlait depuis Annemasse, une pastille qu'on peut écouter sur le site. Elle est disponible
sur le site mais-voisin.fr, donc organisé, enfin un site de services compris, donc le joyeux collectif documentaire avec lequel on a réalisé ce projet.
Benjamin Vandalic, donc photographe ethnologue, et ici peut-être un propos de polémiste, non? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Essayiste? Non, c'est quoi le truc? C'est il y a quelque chose. Benjamin, qu'avez-vous voulu réaliser avec cet ouvrage?
Avec pudeur et simplicité. Et d'ailleurs, c'est réussi pour ça.
Ça, c'est très juste. Pudeur et simplicité.
J'ai pas essayé de lancer une bombe à retardement, mais enfin, l'idée était de se dire que on peut avoir à partir d'un projet, on peut avoir possibilité d'en parler de multiples manières. Donc aussi bien avec la réalisation de petites pastilles multimédia, déjà au moment où ça se réalise, donc pendant une semaine je suis ici, on en parle, etc. On a installé une exposition souvent autour de l'accueil l'accueil administratif, associatif des étrangers en région Rhône-Alpes, une exposition qui avait été réalisée par la date, donc une association, l'association dauphinoise pour l'accueil des travailleurs étrangers.
Les médias couvrent un peu France 3 ou
est-ce que les médias ont couvert
Il n'y a que Radio Canu, enfin,
les vrais médias, quoi.
C'est très bien. Pas forcément les médias non plus.
Ou le média, forcément. Il a commencé le média ou pas encore? Vous savez, c'est
Mélenchon, je sais pas.
Mélenchon, je crois.
Non, et donc, à part ça, donc il y a eu ces petites pastilles multimédia, il y a eu ces lectures publiques, il y a eu donc le livre maintenant dans le cadre du festival. On essaye de multiplier des champs d'action pour réussir à en parler.
C'est intéressant. Pourquoi ce mot de bombe à retardement? Je vous coupe comme ça.
Parce que
ça va exploser. Enfin, disons exploser.
Non, parce que c'est.
Il va y avoir une déflagration.
Oui. On n'est pas sur un one shot. Enfin, c'est pas. On vient, on fait les trucs, on repart. Mais donc, j'ai passé donc il y a un peu plus de un an donc du temps sur un territoire et je suis revenu quelques semaines ou mois après pour présenter donc les petites pastilles multimédia qui étaient montées. Après je suis reparti et là je renvoie à nouveau donc le livre par exemple demain à Saint-Étienne justement on va faire la sortie officielle du livre à la maison de quartier du Babet. Saint-Étienne, j'y étais il y a un an et demi, donc pour autant donc eux sont toujours en lien avec les différentes personnes ou ont la possibilité d'être en lien, et donc ça va être encore l'occasion de pouvoir en parler, de continuer à mener
l'aventure continue. À la fois humaine et scientifique.
C'est ça. L'idée était de se dire que ce travail aussi pouvait, en se faisant avec un téléphone portable, les pastilles sont faites de manière extrêmement simple. C'était une invitation à quiconque de prendre son téléphone pour aussi aller à la rencontre, pourquoi pas, de ses voisins et de continuer ce travail sans moi, de poster ça sur Facebook ou je ne sais quoi.
Publicité, malheur.
Sur les réseaux sociaux bien connus. Mais en attendant,
l'annuaire social.
Ce n'est pas très compliqué de faire ça. L'idée, c'est juste mettre en place la démarche.
C'est comme quelque chose qui a été lancé, en fait.
Et s'y tenir.
Est-ce que vous pensez à un tome 2, d'ailleurs?
Et voilà, c'est ça, la fameuse question de fin d'émission, il y a 5 minutes, et la suite. Qu'allez-vous faire, Benjamin?
On verra si ça va se faire en Bretagne. Pour l'instant, il y a quand même de l'immigration en Bretagne. Un peu moins, beaucoup moins. Mais présente quand même depuis assez longtemps. Sujets.
Je pensais qu'il n'y avait que des Bretons en Bretagne. Eh bien non. Non, les sujets peuvent également toucher là-bas. Absolument universel.
Je vais en commencer un justement d'ailleurs prochainement sur l'immigration d'Afrique subsaharienne, a priori.
En Bretagne.
En Bretagne, à Brest.
Ah, très bien.
Te rappelles-tu, Gérald, hein, c'était l'émission numéro 2,
La petite Afrique à la guillotière.
À la guillotière, émission de. Quand on a commencé,
2013.
2013,
ouais,
c'est
voilà.
Ça.
Ouais. Avec un magnifique ouvrage, Recto Verso.
Non.
Ah, c'était après ça.
C'était avant.
Ah, c'était avant.
Oui.
Parce que Benjamin a aussi écrit un très bel ouvrage photographique. sur la double vie des immigrés africains, lyonnais de la petite Afrique, avec leur vie de loisirs et leur vie très laborieuse, notamment la chaudronnerie.
Si nous peinons Gérald à trouver des propos de fin, peut-être qu'il faudrait laisser parler à Gustavo.
Oui.
Ouais. Ah ouais. Je voulais juste quand même citer l'exergue 15-16, quand même, parce que ça vaut le coup. Je dirais ce que c'est après. C'est un très beau dessin d'un homme qui tend un billet, comme rien. Il est écrit en français sur ce billet, hein, comme rien, c'est ça qui est intéressant. Je revendique cette identité multiple qui est nôtre, et si ma langue est arc-en-ciel, c'est pour mieux saluer cette mer océano-indienne, mer aux vagues de plaisir, où l'insularité porte en elle abondance et joie. Mabelad Kaolu la Mwando, message inscrit en langue française sur le billet de 1000 francs émis par la Banque Centrale des Comores depuis 2007. Ça résume, ça en dit beaucoup sur cet ouvrage.
Et sur la manière dont est perçu le multiculturalisme dans d'autres pays
que la France.
Écoutons Gustavo qui conclut le livre et qui va d'ailleurs conclure l'émission puisque Pascal est arrivé et le blues des canuts est en train de se préparer.
Me llamo Gustavo Chatagin, tengo 35 años, tengo un doctorado en microbiología y trabajo como investigador en microbiología. Donc je viens du Mexique, on dirait en France, que c'est un pays du Sud, donc c'est un pays plus pauvre que la France, mais d'autre part, c'est un pays dont les gens, donc la société, a des valeurs très proches aux valeurs françaises peut-être. Donc il est relativement simple de se comprendre, donc de comprendre les Français pour les Mexicains ou de comprendre les Mexicains pour les Français. Donc je suis ici depuis 2003, donc on apprend, ou en tout cas j'ai appris à vivre comme on vit ici. J'ai peut-être une grande capacité à imiter les gens qui m'entourent, donc je vois comment on se comporte ici, comment on fait ici, et j'essaie de faire pareil. Mais cela ne se traduit pas forcément dans une intégration totale, une acceptation comme un égal. Donc on reste, en tout cas moi, je considère être toujours un immigré ou un étranger presque, je dirais. D'autre part, mais pareil, à chaque fois que je rentre au Mexique, il y a beaucoup de choses qui me choquent, que je ne comprends plus. La plupart des personnes que j'ai croisées bienveillantes à mon égard, donc toujours très curieuses, même si la curiosité, tout le monde s'intéresse assez rapidement à d'où je viens. Après me dire bonjour, la deuxième chose que la plupart des personnes me disent en me rencontrant, c'est d'où je viens et d'où je sors cet accent. Pourquoi cet intérêt si accru sur ma provenance? Mais bon, pas d'hostilité, peut-être pas plus bienvenu que ça. J'ai une culture, je pense qu'il y a quelque chose de commun parmi tous les gens d'Amérique latine, et je m'y retrouve à peu près. Donc j'ai des grandes différences aussi, mais il y a des choses que je reconnais chez les autres latino-américains. En termes des cultures, c'est peut-être que le Mexique, donc si je comparais la France, les États-Unis, ben le Mexique serait au milieu. Donc avec des valeurs comme la République ou la structure civile française qui existe au Mexique, mais aussi une approche de l'économie ou des plus américaines. Donc au Mexique comme aux États-Unis, quelque chose de très important est d'avoir, ce qui est assez contrastant à en tout cas la partie de la société que je connais en France. Ce qui a rendu facile mon installation, la première était peut-être le fait que je parlais français quand je suis arrivé. Et bon, il me semble que ça c'est quelque chose de très cher aux Français, donc leur langue. Je pense qu'une partie de l'hostilité peut passer par là, et donc quand on parle français, il n'y a pas ça. Et le deuxième point était le fait de connaître des Français avant de venir, donc d'avoir quelques amis sur place. Par rapport à l'accueil, ben, il serait bien quelque chose, ça serait peut-être un rêve, d'arrêter cette espèce de phobie croissante vis-à-vis de l'étranger, de l'autre simplement, de celui qui n'est pas, qui est différent ou qui est, dont on ne sait même pas parfois s'il est différent, mais qui vient d'ailleurs.
Allez, auditeurs, Gérald, il est temps de dire au revoir à tout le monde. 15 rue, on dépasse un tout petit peu, mais Pascal est sympa comme tout. Hein. Donc,
il est tellement gentil.
On a terminé, il y avait plein d'annonces à faire, notamment Letway. Ça continue encore cette exposition à côté de chez nous, à côté de la place Atonais, sur la bibliothèque du 1er arrondissement. Box Birman. Il y a encore Cold Tempo, ça se continue, ça se termine là encore quoi, une semaine au Polaris de Corba. J'ai déjà indiqué différentes choses sur le blog. Et puis Dress Code, hein, tu te souviens avec Dress Code, je crois, Black, pour le bal chorégraphique qui est proposé par l'ensemble de Abdou Ngom que nous avions reçu dernièrement. J'en ai parlé la semaine dernière, j'ai mis tous les éléments sur le blog, donc voilà. Benjamin, merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et à la semaine prochaine alors ?
La semaine prochaine, rien de prévu pour l'instant. Auditeur, il y aura certainement quelque chose, ou alors on égrènera Gérald et moi, on fera nos listes
d'actualité,
de cadeaux de Noël ou n'importe. Voilà.
Politique.
Reste à l'écoute de Radio Canu, auditeur, surtout du blues de Canu qui arrive dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, méga combi à 18h, Canu Info à 19h, et puis tout un tas de choses. Bah, c'est une bonne semaine d'ici là, à la semaine prochaine, et puis salut tout le monde, bye.